VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin, Gabi Dorsil et Tatiana Mosso, bonsoir et bienvenue dans cette édition du vendredi 11 novembre 2016. Au sommaire ce soir.
Burundi, détention ce matin du directeur de la radio Bonesha FM alors qu'il exerçait sa profession de journaliste.
Au Mali, le chef de l'ex-junte, le général Amadou Sanogo, sera jugé devant les assises de Bamako à partir du 30 novembre.
En RDC, une minorité d'opposants accuse l'Église catholique de retarder l'exécution de l'accord issu du dialogue politique et de conduire le pays vers le chaos.
Retour sur les manifestations contre l'élection de Donald Trump à la présidence américaine.
Les sports et l'économie, juste après le journal. Le journaliste Léon Massengo, directeur de la radio Bonesha FM, a été arrêté pendant quelques heures ce vendredi par les services burundais des renseignements dépendant de la présidence de la République. Il couvrait l'interrogatoire du commandant de la brigade anti-émeute, Désiré Ouama. Ouamaoro, qui était cité en premier lieu au moment des arrestations. Le point avec notre correspondant Christophe Kourounziza.
Léon Massengo se dirigeait vers le parquet de la cour d'appel à Bujumbura dans les quartiers de Rehero quand il a été arrêté par des policiers du service national de renseignement. Pendant plusieurs heures, le directeur AI de la radio Bonesha, qui n'aimait plus depuis mai de l'année dernière au moment du coup d'état manqué, a subi un interrogatoire mais a été relâché par les mêmes services. Léon Massengo se rendait pour suivre l'interrogatoire de l'ancien commandant de la brigade anti-émeute Désiré Ouamaoro au parquet près la cour d'appel de Bujumbura. Le policier Désiré Ouamaoro, accusé d'escroquerie par les services policiers compétents, avait été arrêté avec 5 autres personnes de nationalité congolaise il y a 13 jours à l'aéroport international de Bujumbura, où un avion privé avait atterri pour une affaire obscure de minerais d'or. Une somme allant jusqu'à plus de 270 000 dollars américains avait été subtilisée par le groupe. Les mêmes sources indiquent que l'ancien commandant de la brigade anti-émeute, qui avait excellé dans l'arrestation des manifestants au troisième mandat du président burundais, aurait été transféré à la prison de Bubanza, à l'ouest du Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Soudan du Sud, une chaîne de radio populaire auprès des Sud-Soudanais a été fermée ce vendredi par le gouvernement, a annoncé la direction de ce média financé par les États-Unis et qui soupçonne les autorités de sanctionner iRadio pour la diffusion d'une interview avec un responsable de la rébellion.
Et Soudan du Sud, toujours, l'ONU craint une flambée de violences ethniques. Le conseiller spécial de l'ONU sur la prévention du génocide, Adama Dieng, a appelé à la réconciliation pour éviter un génocide. Selon lui, ce qui a commencé comme un conflit politique s'est transformé en ce qui pourrait devenir une véritable guerre ethnique. Il y a un risque important d'une escalade de violences ethniques ayant le potentiel de devenir un génocide.
L'ONG américaine Human Rights Watch a appelé la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU, qui entame ce vendredi une visite de 3 jours en République démocratique du Congo, a dénoncé la répression politique. La délégation doit exhorter le gouvernement à libérer immédiatement tous les prisonniers politiques, à cesser toutes les poursuites à motif politique, à rouvrir les médias fermés arbitrairement et à veiller à ce que le droit au rassemblement pacifique soit respecté, plaide Human Rights Watch dans une lettre datée du 8 novembre.
Et les évêques catholiques accusés par une frange de l'opposition d'entretenir l'enlisement. Nous sommes toujours en RDC, la frange minoritaire de l'opposition congolaise ayant convenu avec la majorité du report de la présidentielle en avril 2018, a accusé vendredi les évêques catholiques d'entretenir l'enlisement dans la crise politique. Le report de la présidentielle en RDC, qui devrait se tenir avant fin décembre, a été décidé le 18 octobre par une frange minoritaire de l'opposition et la majorité présidentielle.
L'ex-rebelle congolais Bosco Ntaganda, accusé de subornation de témoins, la procureure de la Cour pénale internationale a de nouveau accusé l'ancien chef de guerre congolais de tenter de faire dérailler son procès pour crime de guerre en subornant des témoins. Une analyse de 450 conversations téléphoniques révèle l'implication de Ntaganda dans un large projet de perversion de la marche de la justice, a affirmé Fatou Bensouda.
Mauritanie, suspension de la grève des dockers au port de Nouakchott. Une trentaine de dockers arrêtés le 7 novembre après des heurts avec la gendarmerie ont tous été libérés en milieu de semaine. Le mouvement concerne une partie des dockers qui protestent contre le déchargement en ville des conteneurs et non plus au port de Nouakchott, les privant selon eux d'une substantielle source de revenus.
Au Mali, le procès Amadou Aya Sanogo, l'ex-chef de la junte, s'ouvre le 30 novembre. L'annonce a été faite par le procureur général près la cour d'appel de Bamako. Amadou Aya Sanogo et complices sont accusés d'enlèvement de personnes, assassinat et complicité. Ce jugement a été très attendu par les parents des victimes, mais aussi par les proches des putschistes de mars 2012. Kassim Traoré.
Il y a une semaine, les enfants et les femmes des Verrous Rouges étaient devant la presse pour exiger la tenue du procès de Amadou Aya Sanogo et complices. Ses parents se réjouissent de l'annonce faite par le procureur général près la cour d'appel de Bamako. Mamadou Lamine Koulibaly informe l'opinion de l'ouverture le 30 novembre 2016 d'une session d'assises au cours de laquelle sera évoquée l'affaire Amadou Aya Sanogo et plusieurs autres accusé d'enlèvement de personnes, assassinat et complicité. Ce procès se tient 3 ans après la fin des instructions qui ont été menées par le juge Yaya Karambé, lequel n'a plus rien à voir dans la procédure du dossier depuis la fin des enquêtes et auditions, qui lui a permis d'écouter tour à tour les parents des victimes, tout comme les accusés. Le reste du travail revient à la cour d'assises de Bamako, afin de situer chacun sur son sort à l'issue du procès très attendu à Bamako. En tout cas, les Maliens souhaitent que ça ne soit pas un jugement politique. Ils veulent que la loi soit appliquée. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Afrique du Sud, le patron de la compagnie nationale d'électricité, Eskom, récemment mis en cause dans un rapport officiel sur la corruption au sommet de l'État, a annoncé qu'il démissionnerait de ses fonctions à la fin de l'année. Dans un rapport publié la semaine dernière, l'ancienne médiatrice de la République a dénoncé les relations privilégiées de la famille d'hommes d'affaires Gupta avec le président Jacob Zuma et l'influence qu'elle exerçait sur le gouvernement et les entreprises publiques.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président élu Donald Trump, en dépit de nombreuses manifestations de protestation observées dans certaines villes du pays, se préparait à une journée chargée ce vendredi puisqu'il comptait préparer des décisions importantes sur les personnes dont il va s'entourer pour gérer le pays après sa prise de fonction le 20 janvier. Précision, John Linden.
Journée chargée prévue à New York. Je vais bientôt prendre des très importantes décisions sur les personnes qui dirigeront notre gouvernement, a tweeté le milliardaire républicain. Et les spéculations vont bon train. Le nom du général à la retraite Michael Flynn, partisan d'un rapprochement avec la Russie, est avancé pour devenir conseiller à la sécurité nationale. Rudy Giuliani, ancien maire de New York, pourrait hériter de la justice. Jeff Sessions, sénateur de l'Alabama, pourrait prendre la défense ou les affaires étrangères, un département que Newt Gingrich, ancien speaker de la Chambre des représentants, pourrait aussi bien diriger. Kellyanne Conway, sa directrice de campagne, a confirmé avoir accepté un poste dans la future administration. Hier, plusieurs milliers d'opposants ont manifesté dans une dizaine de villes à travers les États-Unis contre l'élection de Trump à la Maison-Blanche. Dans un autre tweet, le président élu s'en est pris aux médias, accusé d'alimenter les tensions.
Le président français François Hollande a annoncé qu'il s'entretiendrait ce vendredi par téléphone avec le président élu américain Donald Trump pour clarifier et faire clarifier des positions. Dans une lettre de félicitations adressée à Donald Trump mercredi, François Hollande lui avait proposé d'engager sans tarder des échanges, appelant le magnat de l'immobilier à prendre conscience des inquiétudes qui sont provoquées par les désordres du monde. Pendant la campagne électorale américaine, le président français avait dénoncé plusieurs fois les excès du candidat républicain. François Hollande a néanmoins souligné vendredi que les États-Unis et la France cultivaient une amitié longue et saluaient le soutien du peuple américain après les attentats qui ont frappé la France depuis janvier 2015.
Le groupe État islamique a exécuté cette semaine au moins 60 civils dans la ville irakienne de Mossoul et ses environs, accusant 40 d'entre eux de trahison et les 20 autres d'avoir transmis des informations aux forces irakiennes. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui l'Organisation des Nations Unies. L'ONU ne cesse de publier ces derniers jours des détails sur les horreurs, tortures, exploitation sexuelle, recrutement d'enfants, assassinats commises par Daesh en Irak. Le haut-commissaire Zaid Ra'ad al-Hussein a demandé aujourd'hui que la Cour pénale internationale soit saisie. Pour sa part, le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, le HCR, a indiqué que le nombre de déplacés depuis le début de l'offensive sur Mossoul, le 17 octobre, a doublé en une semaine pour atteindre 47 730 personnes.
Les talibans ont revendiqué jeudi soir une attaque qui a fait au moins 6 morts contre le consulat allemand de Mazar-i-Sharif dans le nord de l'Afghanistan, en représailles à la mort d'un civil dans un bombardement de l'OTAN la semaine dernière à Kunduz. Aucun ressortissant allemand n'a été touché, selon Berlin. Par ailleurs, 128 personnes ont été blessées, dont 10 enfants, certains grièvement atteints, a précisé le responsable de l'hôpital régional.
Les autorités turques ont arrêté ce vendredi le patron du quotidien d'opposition Cumhuriyet, après avoir détenu plusieurs de ses journalistes, au moment où la liberté de la presse est au cœur de vives tensions entre Ankara et l'Europe. Akin Atalay, le président du directoire du quotidien, a été arrêté à son arrivée à l'aéroport Atatürk d'Istanbul en provenance d'Allemagne et placé en garde à vue, a indiqué le quotidien Cumhuriyet sur son site web. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Nanit Talani.
L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, a confirmé avoir pompé plus de brut que jamais en octobre, alors que le cartel souhaite une limitation de production pour soutenir les cours. Les 14 pays producteurs de pétrole ont extrait 33,64 millions de barils par jour le mois dernier. L'OPEP souhaite ramener sa production entre 32,5 et 33 000 barils par jour et parvenir à un accord avec d'autres grands producteurs comme la Russie pour relancer des cours déprimés depuis l'été 2014. La compagnie de téléphonie mobile Orange Côte d'Ivoire a rompu son contrat de sponsoring de la Fédération ivoirienne de football suite à des divergences avec Sidi Diallo, le représentant de la fédération. Depuis plusieurs années, la filiale ivoirienne Orange finançait tous les ans à hauteur de 1 million d'euros, sans compter les primes ou bonus de qualification des éléphants, l'équipe ivoirienne de football aux phases finales de la Coupe des Nations ou de la Coupe du Monde. Enfin, le Cameroun expérimente avec succès un projet pilote de transfert d'argent pour réduire la pauvreté. Le projet Filets sociaux, expérimenté entre novembre 2013 et janvier de cette année, a permis d'effectuer 12 transferts de 20 000 francs CFA à 1 500 ménages sélectionnés dans 15 villages pour leur permettre de résoudre des problèmes quotidiens tels que la scolarité des enfants, leurs soins de santé, les repas ou épargner pour lancer une activité génératrice de revenus.
Passons tout de suite à l'actualité sportive, présentée ce soir par Nicolas Pino. Salut Nicolas.
Bonsoir chérubin.
Éliminatoire pour le Mondial 2018, on joue en Afrique dès aujourd'hui.
Les 20 sélections africaines en piste pour espérer décrocher un billet pour la Coupe du Monde 2018 qui se déroulera, vous le savez, en Russie ce vendredi à Alger. La rencontre entre la Libye et la Tunisie et dès demain à Polokwane, l'Afrique du Sud qui accueille les Lions de la Teranga, les Sénégalais, l'Ouganda contre le Congo à Kampala, le Cameroun à Limbé qui accueille les Chipolopolo de Zambie, les Super Eagles du Nigeria contre les Fennec algériens à Ouyo et puis le Burkina Faso en déplacement à Praia chez les Requins Bleus du Cap-Vert. Mali Gabon à Bamako et à Marrakech, la Côte d'Ivoire face au Maroc.
Et les résultats de la zone Amérique du Sud cette nuit?
Oui, une soirée explosive, hein, puisque les 6 pays en tête du groupe de qualification se rencontraient dans le match au sommet entre le 2e de la poule, l'Uruguay, et le 3e, l'Équateur. Eh bien, c'est l'Uruguay qui l'a emporté 2 buts à 1. A noter qu'Edinson Cavani, le buteur uruguayen, ne jouait pas hier soir. Le Paraguay a été humilié à domicile par le Pérou, 4 buts à 1. Le Venezuela a écrasé la Bolivie, 5 buts à 0. Quant au Brésil, il a pris le meilleur sur son grand rival, l'Argentine, 3 buts à 0. Enfin, la Colombie de James Rodriguez face au Chili d'Arturo Vidal. Eh bien, pas de vainqueur dans cette rencontre, 0 à 0.
Enfin, la NBA, le championnat nord-américain de basketball.
Pour son premier match à Miami, sous le maillot de Chicago, Dwayne Wade a offert la victoire aux Bulls 98-95. On rappelle qu'après 13 saisons et 3 titres NBA avec le Heat, Wade a rejoint à l'intersaison l'équipe de sa ville natale. Et hier soir, il s'est rappelé, dès sa première visite en Floride, au bon souvenir de ses anciens coéquipiers. Après 8 défaites, son pire début de saison depuis 2004-2005, la Nouvelle-Orléans a enfin trouvé le chemin de la victoire face à Milwaukee 112-106. Enfin, les Lakers de Los Angeles qui continuent de surprendre sous la direction de Luke Walton, Ils ont déjà 5 victoires à leur actif après le succès hier à Sacramento, 101-91. À noter les 17 points d'Angelo Russell.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Tatiana Mosso et Chérubin Gabi Dorcy dans votre compagnie. Place au dossier du jour. Notre première escale ce soir, Tatiana, c'est à Abidjan.
Exactement. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a sommé les enseignants de reprendre le service dès la semaine prochaine. Depuis le 2 novembre dernier, les syndicats d'enseignants protestent contre la réforme de retraite envisagée par Abidjan. Et dans une rencontre avec les chefs religieux... avec les chefs religieux et coutumiers, la ministre de l'Éducation nationale, Kanja Camara, a menacé de suspendre les salaires de ceux qui vont poursuivre la grève. Pour plus de détails, Eric Manirakiza a joint la correspondante de VOA Africa Abidjan qui a suivi la réunion, Nareta Namasté.
Au cours de cette rencontre, elle a menacé tous les fonctionnaires qui n'iront pas au travail, qui ne se rendront pas sur le lieu de travail, seront sanctionnés. Elle a également... Je cite ce qu'elle a dit, une grève initiée par la plateforme des organisations professionnelles du secteur public depuis mardi se poursuit dans le pays. En réaction à cet arrêt de travail, le gouvernement ivoirien menace de fermer les écoles et de suspendre les salaires des fonctionnaires. Selon elle, celui qui ne travaille pas ne doit pas bénéficier des salaires. Donc je pense qu'à cette allure, c'est un bras de fer qui va s'engager entre les intersyndicats de l'éducation ivoirienne avec le gouvernement ivoirien.
Et l'ultimatum pour la reprise du travail est fixé pour quand par le gouvernement?
L'ultimatum, c'est jusqu'à la semaine prochaine. Elle n'a pas donné de date. Mais la date, la grève qui avait déjà été entamée depuis le 2 novembre, est prévue pour prendre fin aujourd'hui, logiquement, avec les syndicats. Maintenant, avec cette menace d'abord de fermeture des écoles, parce qu'elle a dit si les enseignants ne partaient pas à l'école, ils allaient fermer les établissements et suspendre leur salaire. Donc on ne sait pas exactement ce qui va se passer dans les jours à venir.
Est-ce que les syndicats ont réagi?
Jusque-là, les syndicats n'ont pas encore réagi. Ils sont en train de se concerter. Nous avons essayé de les joindre. Ils sont toujours en réunion, en conclave. Ils attendent de nous donner suite. Quel sera leur comportement, quelle sera leur attitude d'ici?
Est-ce qu'il y a une détermination à poursuivre la grève ou plutôt à la suspendre? Y a-t-il d'informations qui filtrent déjà?
Il n'y a pas d'informations qui filtrent pour l'instant. Une chose qu'il faut souligner, c'est-à-dire depuis cette note de Mme le ministre de l'Éducation nationale, les parents en Côte d'Ivoire sont très inquiets. Sur les réseaux sociaux, les gens ne font que exprimer leur inquiétude face à la fermeture de cette école parce qu'en 1990, en Côte d'Ivoire, il y a eu l'année blanche et ils craignent que une autre année blanche puisse encore revenir en Côte d'Ivoire.
Et le gouvernement n'entend pas revoir sa copie, aucune concession par rapport aux revendications exprimées par les syndicats?
Mais jusque-là, le porte-parole du gouvernement n'a pas encore réagi.
Et la ministre n'a rien dit à propos?
Ce qu'elle a dit, c'est seulement les menaces. Voilà, si on ferme l'école, aucun enseignant n'aura un salaire.
C'était Nareta Namasté à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Politique américaine, pour la première fois depuis 2006, les républicains ont fait le plein. À partir de janvier, ils vont contrôler la Maison-Blanche, la Chambre des représentants et le Sénat. Ils auront les coulées franches sur l'économie, la santé et l'immigration. Mais les nouveaux maîtres du Congrès et Donald Trump ne sont pas d'accord sur tout, notamment sur le fameux mur entre les États-Unis et le Mexique. Anastasie Tudiech.
Les points d'entente sont nombreux, dont la priorité sera d'abroger Obamacare. Cette réforme, adoptée en 2010 par le Congrès, alors démocrate, a permis à 22 millions d'Américains d'avoir une couverture maladie. Pendant son escale au Capitole hier, Donald Trump a promis aux républicains du Congrès de faire un vrai boulot sur la santé. Supprimer Obamacare sera comme une opération chirurgicale, mais que va-t-on faire des personnes couvertes par Obamacare ? Donald Trump a dit qu'il est inacceptable que certains Américains ne soient pas assurés. Autre chose qui va passer comme une lettre à la poste sera le renforcement des contrôles à la frontière. Le candidat Trump avait détaillé ses propositions le 30 août et les républicains ont déjà un arsenal législatif prêt à l'emploi pour lutter contre l'immigration. Donald Trump a aussi promis d'expulser les millions d'immigrés clandestins et d'annuler les décrets d'Obama accordant des papiers temporaires à des centaines de milliers de jeunes sans papiers. Enfin, le président élu a déjà promis de nommer un juge conservateur à la Cour suprême pour le siège vacant depuis février dernier. En effet, la construction du fameux mur à la frontière mexicaine ne fait pas l'unanimité dans le camp républicain. Paul Ryan, le patron de la Chambre, ne voit pas l'utilité d'un mur physique sur toute la longueur de la frontière et puis comment le financer. C'est dire que le Congrès, qui garde les cordons de la bourse, n'entend pas signer un chèque en blanc aux futurs locataires de la Maison-Blanche. En politique étrangère, le rôle de l'OTAN face à la Russie pourrait créer des frictions avec une partie des conservateurs qui considèrent encore Moscou comme un ennemi. Quant à l'engagement du candidat anti-système à limiter le nombre de mandats des élus du Congrès, le sénateur Mitch McConnell a répondu poliment « On a déjà une limite, cela s'appelle les élections ». D'ailleurs, l'homme fort du Sénat a adressé une mise en garde au successeur de Barack Obama en disant que rien ne dure pour toujours dans ce pays. « Depuis 1788, nous avons des élections régulières tous les deux ans et en faire trop après une élection est en général une erreur. »
VOA Afrique en direct de Washington.
Environ 500 observateurs électoraux étrangers étaient à Washington lors de l'élection présidentielle américaine. Nathalie Barge a joint Marie-Madeleine Coué-Ounart, présidente de l'Autorité nationale des élections en Centrafrique, qui a noté quelques manquements.
Quand on vient ici, on s'attend à ce que tout soit parfait. Mais on a remarqué quelques difficultés, quelques boulets d'étranglement, quelques manquements quelque part, voilà, où il y a des bureaux où il n'y a pas assez de machines. Bon, on a constaté ça. Mais ce qui est là, c'est que tout le monde a confiance au système électoral américain et bien qu'il y ait des files, par exemple des files d'attente énormes pour arriver à voter, les gens n'ont pas décrié cela. Alors qu'en Afrique, on aurait pu c'était un élément pour bloquer le processus électoral. Mais ce que j'ai salué ici, c'est vraiment la confiance au système électoral.
Est-ce que vous auriez des exemples à retenir, notamment des enseignements, justement en matière de fiabilité, pour éviter la fraude, pour assurer la transparence ?
Absolument, absolument, il y en a beaucoup. L'exemple que j'ai vu, c'est que pour les agents qui travaillent dans les bureaux de vote, on n'a pas tenu compte des partis. C'est des recrutements jusqu'au niveau des mineurs pour pouvoir assurer cela. Ça, il faudrait arriver à faire passer en Afrique parce que c'est des suspicions. C'est des choses qu'on voudrait vraiment répliquer. Et puis le système d'inscription. En Afrique, on dépense beaucoup d'argent pour faire les inscriptions au moment des élections ou avant les élections. Alors que si on pouvait aider les citoyens à avoir une carte d'identité, par exemple, son nom serait automatiquement sur la liste électorale. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin de dépenser pour faire des inscriptions biométriques ou non pour avoir les élections.
Vous avez également suivi une formation. Est-ce que vous auriez quelque chose à retenir, notamment en matière de gestion des contentieux?
Oui, on a quelques idées. Par exemple, il faut se coller à la loi électorale. Parce que quand on commence à faire des cas à part, ça finit plus, on ouvre la boîte de Pandore. Je crois qu'on va veiller à ce qu'il y ait un cadre juridique adéquat, notamment un code électoral qui a le consensus de toutes les parties prenantes. Et à ce moment-là, on se colle au code électoral pour ne pas faire du surplace.
C'était Marie-Madeleine Coué-Ounart, présidente de l'Autorité nationale des élections en Centrafrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Savez-vous que les électeurs dans plusieurs États américains ont voté des lois rendant légale la consommation de la marijuana? Eh bien, c'est le cas en Californie, par exemple. On a adopté la proposition 64, autorisant toute personne âgée d'au moins 21 ans à fumer ou produire dans son jardin la marijuana à une quantité limitée. Mohamed Ali Fofana, 43 ans, est d'origine guinéenne et vit en Californie depuis plusieurs décennies. Au micro de Bagassi Koura, il explique pourquoi les habitants de cet État ont tenu à voter oui dans ce référendum.
Cette initiative était une légalisation pour les adultes de 21 ans et plus pour pouvoir consommer le cannabis légalement.
Pourquoi est-ce que les gens ont voulu légaliser la drogue? Pourquoi en Californie les gens ont tenu à ce que ça soit autorisé?
Les Californiens croient que la consommation du cannabis n'est pas quelque chose de dangereux. Ça ne crée aucun problème. Scientifiquement, il n'y a aucune recherche qui a prouvé que le cannabis peut créer des problèmes de santé ou des situations où les gens deviennent violents ou je ne sais pas quoi. Mais c'est prouvé quand même que le cannabis, ça aide les gens à passer leur temps tranquillement. Ceux qui sont malades, ça leur donne la chance de passer leur temps sans peine.
Alors, maintenant que la loi est passée, ça veut dire quoi? Tout le monde peut fumer maintenant?
Maintenant que la loi est passée, tous les adultes qui ont 21 ans et plus peuvent se lever et aller acheter du cannabis.
Comme on achète la cigarette, par exemple?
Comme on achète la cigarette, c'est un truc comme la cigarette, comme le jus de Fanta ou le jus de Coca. Tu te lèves, tu vas, tu achètes. C'est légal. C'était déjà légalisé sur le plan médical. Les gens qui avaient des ordonnances médicales qui leur permettaient d'aller acheter ça pouvaient le faire aussi.
Alors l'idée aussi qui est derrière, hein, c'est aussi pouvoir taxer une industrie qui peut rapporter peut-être jusqu'à plus d'un milliard de dollars à l'État de Californie seul.
Exactement. Et les gens qui étaient contre ce truc étaient en fait en train de parler de taxation, des trucs d'impôts. En fait, ça peut donner plus de 2,5 milliards de dollars.
Est-ce qu'il y a des craintes que l'État fédéral bloque cette loi?
C'est possible. L'État fédéral a toujours la force où l'État fédéral, c'est lui qui coordonne les lois fédérales. Ils peuvent arrêter ce truc quand ils veulent.
Est-ce que vous-même, ça vous intéresse de fumer la marijuana?
Pour être honnête, je le dirais clairement à tous mes frères et sœurs africains et tous mes oncles, pères et grands-pères africains. Moi, j'ai consommé le marijuana pendant un bout de temps. Donc, j'ai décidé de ne plus faire. Mais c'est un truc personnel, c'est individuel. Chaque personne a son propre truc. Mais ce n'est pas un démon. Ce n'est pas un démon comme l'alcool. L'alcool et la cigarette sont les plus dangereux.
Mohamed Ali Fofana, dans toute son honnêteté. Il est un Américain d'origine guinéenne, joint en Californie.
El incomparable, el tsunami. Esto es lo mejor de mí, para ti, my pretty girl. Come on, come on, come on, come on, come on, come on.
C'est presque la fin de cette édition et je te vois cadencer un peu.
Exactement, c'est pour le RM Show.
Le RM Show, c'est à 20h temps universel tous les soirs avec mon pilote préféré, c'est ici que je l'appelle d'ailleurs, c'est Roger Montou, à ne pas rater, 20h temps universel sur VO Afrique.
Et c'est déjà la fin de cette édition. Michel Joseph à la mise en onde et à la console, Nick Ivanov. Présentation, Chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. En ma compagnie, Tatiana Mosso. Merci Tatiana. Merci à vous tous qui me suivez sur Facebook. On maintient la conversation. N'oubliez pas de visiter voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24. Et balancez. Yeah.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.